Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 16 février 2021. Eric Manirakiza à la présentation. D'abord le sommaire. Emmanuel Macron maintient les effectifs de Barkhane, appelle à renforcer la lutte contre Al-Qaïda et au retour de l'État. Deux ex-chefs de milices centrafricains rejettent les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Une vague de froid frappe les États-Unis d'est en ouest et a fait au moins 10 morts. Birmanie, la junte poursuit la répression et a inculpé une nouvelle fois Aung San Suu Kyi. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Fin aujourd'hui du sommet de deux jours du G5 Sahel en N'Djamena, le président Idriss Déby Itno a promis de renforcer la présence militaire du Tchad au Sahel. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Idriss Déby Itno a promis d'envoyer 1200 soldats tchadiens dans la zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Au-delà du volet militaire, le président tchadien a insisté sur la nécessité de donner une perspective aux populations du Sahel.
Si les jeunes ont choisi par désespoir le camp du mal, il nous revient de créer les conditions nécessaires de bien-être social en vue de les soustraire aux griffes de monstrueuses organisations terroristes.
Intervenant par visioconférence, le président Emmanuel Macron a appelé à décapiter les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Il a ajouté que la France ne compte pas réduire dans l'immédiat les effectifs de l'opération Barkhane.
Je considère que précipiter un retrait français, en tout cas volonté de retirer massivement les hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudié, serait une erreur.
L'opération Barkhane mobilise 5100 soldats. Le président français a cependant ouvert la voie à une baisse progressive de la présence militaire française.
L'insécurité grandissante au Niger, née de la frustration des populations face aux politiques du gouvernement sortant, a estimé l'opposant Mahamat Ousmane, qualifié pour le second tour de la présidentielle de dimanche face au favori et candidat du pouvoir Mohamed Bazoum. Les deux finalistes ont engagé des négociations avec les 28 autres candidats malheureux, l'ancien premier ministre Seyni Oumarou et Abouba Al-Badé. Anciens ministres de l'Intérieur ont annoncé soutenir la candidature de Bazoum. Le procès de deux ex-chefs de milices centrafricains, dont un ancien responsable du football africain, s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. La CPI les accuse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les précisions de John Lyndon.
Patrice Edouard Ngaïsona, ancien ministre centrafricain des sports, et Alfred Yekatomb, surnommé Rambo, sont jugés pour des crimes présumés perpétrés en République centrafricaine lors de la guerre civile entre 2013 et 2014. Ils sont accusés de meurtre, viol, torture, transfert forcé de population, persécution et autres actes inhumains. L'ouverture du procès a débuté par la lecture des charges retenues contre eux. Monsieur Yekatomb et Monsieur Ngaïsona ont tous les deux plaidé non coupables de toutes les charges à leur encontre. La CPI avait déterminé en décembre 2019 qu'il existait suffisamment de preuves pour ouvrir un procès afin de juger ces deux anciens chefs de milice anti-Balaka. Les audiences se poursuivront jusqu'au 18 février avec les déclarations liminaires du procureur et les déclarations des représentants légaux des victimes.
Toujours sur la crise centrafricaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande d'augmenter la mission de paix MINUSCA en Centrafrique de près de 3700 casques bleus dans un rapport remis au Conseil de sécurité. Au moins 10 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans un nouveau massacre attribué au groupe combattant du groupe ADF dans l'est de la RDC. Selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni, les victimes ont été tuées par armée blanche et certaines par balles. Ces tueries ont fait au moins 50 morts depuis début février. Plus de 2000 civils ont été tués dans trois provinces de l'est de la RDC l'an dernier lors d'attaques attribuées en majorité à des groupes armés, a indiqué l'ONU mardi. Le HCR se dit alarmé par les atrocités commises par ces groupes sur des civils pour semer la peur et provoquer le chaos. Un ex-ministre de la justice burundais et son épouse, accusés de traite d'êtres humains pour avoir exploité un compatriote pendant 10 ans chez eux en région parisienne, seront jugés demain en appel en France. Cette infraction est passible de 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui dans l'est de l'Algérie à Kerata, le berceau du mouvement anti-régime Irak. Les manifestants ont bravé l'interdiction de manifester pour marquer le deuxième anniversaire du soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président Abdelaziz Bouteflika. La justice soudanaise a confirmé aujourd'hui la condamnation à mort de 29 agents du renseignement pour le meurtre en 2019 d'un professeur qui avait participé à des manifestations contre le président de l'époque, Omar El-Béchir, destitué la même année selon l'avocat de la victime. Le Lion d'or de danse 2021 a été décerné à la danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise Germaine Cognac. Connue comme Germaine Akoni, la mère de la danse contemporaine africaine, a annoncé aujourd'hui la Biennale de Venise. La danseuse de 76 ans qui a dirigé de 1977 à 1982 Moudra Afrique, l'école de danse fondée par Maurice Béjart et le président Léopold Sédar Senghor, croit dans la capacité de la danse à changer la vie des gens et elle s'est toujours engagée à partager sa passion comme acte de transformation et de régénération.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une vague de froid couvre une grande partie des États-Unis. Elle a déjà fait 10 morts et privé d'électricité des millions de personnes, y compris dans le sud du pays, comme au Texas, habitué à des températures plutôt clémentes. Claire Morin-Gibourg.
Verglas, chute de neige, blizzard, un froid polaire s'abat depuis plusieurs jours sur les États-Unis. 10 décès ont été attribués à ce mauvais temps. Les autorités exhortent les habitants à faire preuve de prudence. Nous n'avons pas survécu près d'un an à une pandémie pour perdre des gens à cause d'une tempête de neige ou de verglas, a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andrew Beshear. Le service météorologique national a mis en garde contre une zone sans précédent et étendue de conditions hivernales dangereuses, de la côte est à la côte ouest, avec plus de 150 millions d'Américains sous avis de météo hivernale. Plus habitués des records de chaleur qu'à la glace, le Texas est particulièrement affecté par cette vague de froid historique. Plus de 300 000 personnes sont privées d'électricité. Austin est sous la neige. Houston a atteint moins 9 degrés. Et certains endroits ont même vu la température chuter jusqu'à moins 18 degrés Celsius, alors que la température habituelle tourne autour des 20 degrés. Outre le Texas, l'Alabama, l'Oklahoma, le Kansas, le Mississippi et l'Oregon ont déclaré l'état d'urgence.
Le président américain Joe Biden répondra ce soir aux questions d'Américains lors d'un town hall sur CNN depuis la ville de Milwaukee dans le Wisconsin. Cette réunion publique destinée à expliquer les mérites de son gigantesque plan de sauvetage de l'économie de 1900 milliards de dollars. Il devra aussi dire pourquoi, face au ravage du Covid-19, il a décidé d'aller vite sans attendre un consensus au Congrès. Jeudi, il se rendra dans le Michigan pour visiter une usine Pfizer qui produit des vaccins. En Birmanie, les appels à la désobéissance civile se poursuivent malgré le durcissement de la répression par les militaires. Malgré les condamnations internationales, l'ancienne chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a été une nouvelle fois inculpée. Mohamedou Mfa.
Déjà poursuivie pour avoir illégalement importé des talkie-walkies, l'ex-dirigeante de 75 ans fait face à une nouvelle inculpation pour avoir violé, je cite, « la loi sur la gestion des catastrophes naturelles », selon son avocat qui a précisé qu'une nouvelle audience devait avoir lieu le 1er mars. L'ancienne chef du gouvernement civil et lauréate du prix Nobel de la paix est en bonne santé, a tout de même rassuré le vice-ministre de l'information, Zhao Min-Tun, au cours d'une conférence de presse. Pendant ce temps, la répression se poursuit. Quelques 400 personnes ont été placées en détention ces deux dernières semaines. Pour la quatrième fois depuis le putsch, les connexions Internet ont été presque totalement coupées dans la nuit de lundi à mardi avant d'être rétablies 8 heures plus tard. Malgré cela, la mobilisation se poursuit. Des manifestants ont bloqué un tronçon au sud de Rangoon, interrompant le service entre la ville portuaire et la capitale économique. Des moines ont défilé vers l'ambassade des États-Unis. Non loin de là, des jeunes vêtus de noir ont entamé une danse contre la junte, d'autres ont chanté. Les foules étaient toutefois moins denses dans les rues que les jours précédents.
Au Yémen, le chef des affaires humanitaires de l'ONU s'est dit très inquiet de l'escalade des violences à Marib. Les rebelles houthis cherchent à s'emparer de cette ville riche en pétrole depuis plus d'un an, mettant des millions de civils en danger. Les États-Unis ont annoncé l'arrêt de leur soutien à l'Arabie Saoudite au Yémen et le retrait mardi des houthis de leur liste des organisations terroristes afin de ne pas entraver l'acheminement de l'aide. Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Linden.
Au Gabon, à cause de la pandémie, l'économie a perdu plus de 12 000 emplois en 2020. Le secteur pétrolier, qui représente plus de 80% des revenus, est l'un des secteurs les plus touchés, ce qui a fait chuter le taux de croissance, qui est passé de près de 5% en 2019 à 1,5%. L'économie gabonaise est fortement dépendante du pétrole, qui représente 39% du produit intérieur brut, 49% des recettes budgétaires et 85% des recettes d'exportation. Au Cameroun, Atlantic Group annonce la construction d'une cimenterie, la sixième du pays. Les travaux de construction devraient débuter dans les prochains mois. Le PDG d'Atlantic Group, l'Ivoirien Kone Dozongi, entend construire dans la localité de Kribi une usine d'une capacité annuelle d'1 million de tonnes de ciment pour un coût estimé à 60 milliards de francs CFA. Et selon Financial Afrique, ce projet industriel devrait générer plus de 2000 emplois directs et indirect. Le prix du Bitcoin a franchi le seuil de 50 000 dollars mardi, une première pour la crypto-monnaie qui ne cesse de battre des records, galvanisé par l'intérêt de grandes banques et d'entreprises comme Tesla. Depuis le début d'année, le Bitcoin a connu une progression de près de 75%.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les matchs de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se poursuivent en Mauritanie. Le groupe C est entré dans la danse ce soir. Le Ghana a corrigé la Tanzanie 4-0. Le Maroc fait face à la Gambie. Hier, l'Ouganda s'est emparé de la tête du groupe A en disposant du Mozambique 2-0. Il est suivi du Cameroun qui s'est imposé en ouverture dimanche devant le pays hôte 1-0. Que de matchs nuls dans le groupe B, 0-0 entre le Burkina Faso et la Tunisie et 1-1 entre la Namibie et la République centrafricaine. En Europe, les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions débutent ce soir. En pleine déconfiture en championnat, Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joël Matip retrouvent Leipzig dans un choc à haut risque, délocalisé à Budapest pour raisons sanitaires. À suivre aussi Paris Saint-Germain, FC Barcelone, Neymar et Angel Di Maria blessés, Kylian Mbappé porte l'essentiel des espoirs du Paris Saint-Germain. Coup d'envoi des deux rencontres, 20h, temps universel. Ici, en NBA, le Jazz a eu le dernier mot contre les Sixers dans un choc palpitant. Sans l'intérieur camerounais Joel Embiid, touché au dos, Philadelphie a chèrement défendu sa peau avant que le Jazz ne finisse par s'imposer 134-123. Brooklyn a battu Sacramento 136-125 et les Los Angeles Clippers ont pris le dessus sur Miami 125-118. Auteur d'une superbe saison, Julius Randle, 44 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, a encore été excellent, permettant aux New York Knicks de remporter un troisième succès d'affilée contre Atlanta, 123-112. Chicago s'est imposé après prolongation 120-112 à Indiana. Revanchard depuis son transfert chez les Rockets, John Wall avait à cœur de montrer aux Wizards qu'ils ont eu tort de ne plus croire en lui, mais son retour à Washington a été gâché par Bradley Beal, qui a mené la franchise de la capitale à la victoire 131-119. Wall a réussi 29 points et 11 passes décisives pour Houston, mais n'a pu empêcher la sixième défaite du rang des Texans. Toujours ici aux États-Unis, la Ligue nord-américaine de basketball a reporté le match prévu ce soir entre Détroit et San Antonio. En raison du coronavirus, les Spurs n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de 8 est requis, un membre de l'équipe texane a été testé positif, a ajouté la Ligue sans préciser s'il s'agit d'un joueur ou d'un membre de l'encadrement. Selon le protocole de la NBA, toute personne testée positive ou identifiée comme ayant été en contact étroit avec une personne contaminée doit être mise en quarantaine. Depuis que la saison a débuté le 22 décembre, 25 matchs ont été reportés à cause du Covid-19.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Merci à vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, de retour avec vous Eric Manelakidza pour aborder les dossiers du jour. Le sommet du G5 Sahel a pris fin aujourd'hui à N'Djamena, même si les questions politiques et la présence des États dans les zones touchées par les activités djihadistes ont été évoquées, l'option militaire restait prédominante. La France a exclu dans l'immédiat une réduction de ses troupes au Sahel, alors que le Tchad annonce l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières. Pour une analyse, Abdelrahman Dia a joint à Abidjan l'écrivain et chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, Seydik Abba.
D'abord, il y a, je pense, une volonté de consolider les acquis de la nouvelle stratégie qui a été lancée depuis le sommet de Pau en janvier 2020. Une stratégie qui a permis quand même de reprendre un peu le dessus sur les groupes djihadistes, principalement dans la zone des trois frontières, à savoir la zone qui est commune au Burkina Faso, au Niger et au Mali. On remarque depuis le sommet de Pau et la volonté de concentrer les forces sur cet espace et sur l'État islamique au Grand Sahara. Des résultats ont été obtenus.
Effectivement, mais le sommet devait également aborder la question politique et diplomatique dans cette crise dans le Sahel, mais ça se voit que l'option militaire est toujours bien présente.
Oui, mais le sommet a tout de même expliqué qu'on a besoin de cette composante sécuritaire et militaire, mais le sommet a beaucoup insisté sur la nécessité du redéploiement de l'État, notamment dans les zones les plus fragiles. Parce que le constat a été fait que les groupes djihadistes ont profité beaucoup de l'absence des États dans ces différentes zones. Et le sommet a beaucoup insisté là-dessus et a insisté aussi sur la nécessité d'avoir des projets de développement. Parce que la paix ne sera durable que si on met en place des projets de développement. Comme a dit un peu un officier militaire qui vient de quitter le service, on tue 10 et on voit 20 qui sont 20 nouveaux qui rejoignent le groupe.
Alors, dans tout cela, est-ce que, selon vous, il y a un déphasage entre la réalité telle que vue par les opinions publiques dans des pays comme le Mali, par exemple, qui semble demander le départ des troupes françaises, et la réalité des politiques?
Quand on prend l'exemple du Mali, qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un basculement de l'opinion entre Serval et Barkhane. Et au moment de Serval, tout le monde a vu l'accueil triomphal qui a été fait au président français, qui a été fait aux troupes françaises. Beaucoup de jeunes ont pris le nom du premier soldat français qui est tombé. Il y a eu une symbiose. Mais à partir de Barkhane, parce que Barkhane était une mission beaucoup moins évidente, beaucoup moins claire. Et ce qui était reproché à la fois au Mali, parce qu'on parle du Mali parce que c'était le plus important, mais au Niger aussi, il y a eu la contestation de la présence française. C'était au moment où on ne voyait pas, dans l'opinion publique, on ne voyait pas la valeur ajoutée de la présence française. Et les Français sont là, on continue à tuer des gens à Chinagodère, on continue à tuer des gens, des militaires au centre du Mali. Et les opinions publiques se sont mises à penser que cette présence n'avait aucune utilité. Mais du côté des pouvoirs publics, on était beaucoup moins engagés sur le départ des Français, et même si aujourd'hui on voit qu'il y a une différence d'appréciation entre la France et le Mali, et la France et le Burkina aussi, sur la nécessité ou non de dialoguer avec les groupes djihadistes.
Seydik Abba, écrivain et chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, joint à Abidjan.
Abdelrahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, un sommet du G5 Sahel se tient à N'Djamena avec la participation de la France engagée depuis 8 ans aux côtés des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, les groupes djihadistes continuent de sévir dans la zone, les populations civiles payant le plus lourd tribut. Des milliers de personnes ont perdu la vie et 2 millions ont été déplacés. Au-delà de l'aspect militaire, le sommet de N'Djamena cherche aussi des solutions politiques et diplomatiques à la crise au Sahel. Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Le retour sur la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC, coup double de l'ancienne ministre nigériane des Finances, devenue lundi la première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. La nouvelle a été bien accueillie dans son pays. Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja, a recueilli quelques réactions de certains leaders d'opinion.
Pour les autorités fédérales, Okonjo-Iweala entre dans l'histoire en tant que première femme et première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. Les Nigériens lui rendent hommage chacun à sa façon. Certains portent des vêtements qui ressemblent à la robe de Okonjo-Iweala. Faites Mwadichi, activiste et originaire de l'État du Delta, tout comme la nouvelle patronne de l'OMC.
Elle n'est pas seulement une femme, mais une femme qui vient de l'État de Delta, mon État d'origine. Donc, je me félicite que cela arrive dans ma vie. C'est un appel aux femmes à être efficaces dans tout ce qu'elles font. Okonjo-Iweala est une femme qui a fait face à beaucoup de défis. Elle est la première femme qui est devenue ministre des Finances au Nigeria. Et elle a fait un bon travail.
Ngozi Okonjo-Iweala a précédemment été deux fois ministre des Finances du Nigeria et a passé 25 ans à la Banque mondiale. Au début de ce mois, la nouvelle administration du président américain Joe Biden est revenue sur la décision de l'ancien président Donald Trump de s'opposer à l'élection de la Nigériane à ses postes et a exprimé son soutien à Okonjo-Iweala. Kamilou Sanifage de la faculté des sciences politiques de l'université de Kano estime que l'arrivée de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC est une reconnaissance de l'Afrique vu la politique qui a précédé son élection.
Sa position va permettre à l'Afrique et le Nigeria de trouver une place dans le monde étant la patronne de cette institution. Ensuite, je pense que sa position va aider à mettre les problèmes de l'Afrique et du Nigeria sur l'agenda de l'OMC.
On the agenda of WTO.
Elle a déclaré dans un communiqué que sa première priorité serait de s'attaquer rapidement aux conséquences économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19 et de mettre en œuvre des réponses politiques nécessaires pour relancer l'économie mondiale. La question qui fait débat ici est de savoir quelle influence la nouvelle patronne de l'OMC pourrait avoir sur les grands dossiers de l'organisation. La réponse de l'économiste nigérien Dr Odilem Nwegbara.
Elle est juste là pour diriger les affaires journalières de l'OMC. Et donc, s'il doit y avoir un conflit entre les membres, le bureau sera chargé de résoudre la crise. À part cela, je ne pense pas qu'elle peut influencer les politiques de l'organe, et surtout lorsque cela implique des puissances majeures, les États-Unis et la Chine.
L'OMC s'occupe des règles du commerce entre les nations et intervient dans les disputes entre les États sur des questions de droit commercial. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En République centrafricaine, c'est un ouf de soulagement. Une vingtaine de camions de transport de marchandises est entrée ce mardi à Bangui. Il s'agit du premier convoi sécurisé par l'armée centrafricaine et ses alliés depuis la frontière camerounaise de Bangui. La correspondance de Freeman Sipila.
Des centaines de Banguissois sont sortis au bord de la route pour saluer avec des cris de joie le passage de ces camions escortés par des soldats centrafricains et russes. Il s'agit en effet du premier convoi en provenance du Cameroun depuis la libération du principal axe de ravitaillement du pays par l'armée nationale et ses alliés. Le colonel Modoua de l'armée centrafricaine est le chef de mission de l'escorte.
Les forces négatives ont tenté d'asphyxier la ville de Bangui et avec la nouvelle stratégie que nous avons essayé de mettre en place, on a vu qu'ils sont aussi vulnérables qu'un papier qu'on peut déchirer et qui a fait que justement nous avons pris notre courage pour convoyer ce cortège jusqu'au niveau de Bangui ici. Et là c'est le premier convoi. D'ici peu, tout va rentrer dans l'ordre et le corridor sera vraiment actif.
L'arrivée de ces camions rassure dans la capitale et ravive l'espoir de la disponibilité de certains produits alimentaires sur le marché.
Nous remercions le bon Dieu de nous avoir fait cette grâce. L'arrivée de ces camions est le signe de la fin de notre souffrance. Merci aux militaires centrafricains, merci aux soldats russes et rwandais.
La satisfaction est aussi dans le camp des conducteurs de ces camions bloqués durant presque 2 mois à la frontière avec le Cameroun.
Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous qu'on a fait 2 mois garés sur place et cette fois-ci, on a décidé de venir, on a demandé les volontaires, on a décidé de venir habiter nos parents qui meurent de faim ici. Et puis, au début, on a peur d'arriver à un certain moment, donc on a enlevé le père. Dès qu'on a pris la route et puis le père est parti, on est arrivé sans et sauf, il n'y a rien qu'on a trouvé en route comme obstacle.
Pour le gouvernement, ce premier convoi qui précède de nombreux autres déjà en route est une réussite et un signal fort. Arnaud Djoubaï Abazène, ministre des Transports.
Vont se démarrer, promesse de promesse, aujourd'hui c'est chose faite. Il n'y a plus de doute, le gouvernement a su mettre la main avec la collaboration, l'appui de nos amis de la Russie, de nos amis de Rwanda, les FACA, les paramilitaires, les centrafricains dans sa globalité, tout le monde s'est élevé comme un seul homme pour dire non, non, il faut faire en sorte que la République centrafricaine soit approvisionnée. Voilà chose faite, le convoi est arrivé, les malfrats, les terroristes ont tenté de barrer la route, ils ont été pulvérisés, donc il n'y a plus de doute.
L'axe Bangui-Garoua-Boulaye a été entièrement libéré le 11 février dernier par les forces armées centrafricaines et leurs alliés après un blocus de près de 2 mois imposé par les rebelles de la CPC, une coalition des groupes armés qui s'opposent au pouvoir de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition, ainsi va le monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Runanila Kahima, Michel Claire-Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, Eric Manelakiza. Nos programmes continuent sur VOA Afrique, voafrique.com, sur notre page Facebook 24h sur 24. Excellente soirée à tous. À la prochaine.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis sont gravement préoccupés et alarmés par le coup d'État survenu en Birmanie. L'armée birmane a arrêté les responsables de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti au pouvoir, les dirigeants civils, notamment Aung San Suu Kyi et le président Aung San Suu Kyi, ainsi que des ministres, les chefs des plusieurs régions, des politiciens de l'opposition, des écrivains et des représentants de la société civile et des activistes. Le Parlement birman devait tenir sa première session depuis les élections du 8 novembre, au cours desquelles la Ligue nationale pour la démocratie, ou NLD, le principal parti civil du pays, a remporté 83% des sièges. Aung San Suu Kyi, chef de la NLD, est la chef civile du pays depuis son entrée en fonction en 2015. Les chefs militaires birmans ont rejeté les résultats des élections, les qualifiant de frauduleux. Lorsque ces allégations n'ont pas persuadé les Birmans, les troupes ont encerclé le Parlement et mené un coup d'État. L'armée birmane a annoncé l'état d'urgence d'un an à la télévision, affirmant que la constitution de 2008 lui donnait le droit de déclarer une urgence nationale. L'armée a pris le contrôle des infrastructures du pays, repris la plupart des ministères, suspendu la plupart des émissions de télévision et lancé une campagne contre la société civile. L'armée a ensuite cédé le pouvoir à son chef, le général Meng Aung Hlaing. Durant ces années de partage du pouvoir avec des élus civils, l'armée a maintenu une influence substantielle dans les affaires politiques birmanes. La constitution accorde aux militaires le contrôle des ministères de la Défense et de l'Intérieur. De plus, un quart de siège au Parlement leur est réservé. Le président Joe Biden a exhorté la communauté internationale à se mobiliser pour faire pression sur l'armée birmane afin qu'elle renonce immédiatement au pouvoir, libère les militants et les responsables détenus, lève toutes les restrictions en matière de télécommunications et s'abstienne de toute violence contre les civils. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé les chefs militaires birmans à respecter la volonté du peuple birman exprimée lors des élections démocratiques du 8 novembre. Les États-Unis soutiennent le peuple birman dans ses aspirations à la démocratie, à la liberté, à la paix et au développement. L'armée doit annuler ses actions immédiatement.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.